Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. C'est l'heure du magazine que nous réalisons avec l'Office de tourisme communautaire de la DLVA. Ce numéro est consacré à l'agritourisme, une émission animée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et pour ce nouveau magazine sur Fréquence Mistral, coproduit avec l'Office de tourisme communautaire de la DLVA, le thème de ce numéro de Destination Haute-Provence nous permet d'aller au cœur d'une profession essentielle à notre territoire et aussi à notre survie. L'agriculture est un atout et aujourd'hui c'est aussi un vecteur important du tourisme. Ce magazine va le prouver. Ils nous nourrissent donc et sont bien plus que des acteurs façonnant et fondant nos paysages. Nos agriculteurs savent aussi assurer la promotion de leur activité et de leurs produits. Et c'est à quelques jours d'un événement de grande ampleur que nous nous y intéressons. Corbières en Provence va accueillir du 10 au 12 septembre les Terres de Jim, la plus importante manifestation agricole d'Europe et en plein air. On attend des dizaines de milliers de visiteurs en terre basalpine. À la baguette, les jeunes agriculteurs du 04 nous accueilleront David Ayot. Dans un instant, il est en charge de l'organisation de Corbières. Et puis nous accueillerons aussi Jean-Frédéric Gontier pour l'Office de tourisme communautaire de DLVA. Nous verrons comment l'Office participe à la promotion de l'agriculture et quel est le poids de l'agritourisme dans l'agglomération. De Valensole à Riez et d'Oraison à Manosque, les dynamiques ne manquent pas et donnent du caractère au territoire. Et puis, nous entendrons aussi quelques-uns des acteurs agricoles du terroir local passionnés et passionnants. Bonne émission. On ouvre ce magazine avec un produit phare qui agrémente nos plats, en particulier durant les fêtes de fin d'année. Il s'agit de la truffe et celle qui pousse en Haute-Provence est la Tuber melanosporum de belle couleur noire. C'est la variété que cultive Gilles Barbe du côté de Valensole. Son nom, la truffe noire de Villedieu. Gilles Barbe est trufficulteur avec une particularité. Il taille les chaînes de ses truffières en boule route d'oraison. Les arbres sont ensemencés et certifiés par l'INRA notamment. Sabine, elle, invite à assister à la récolte, on dit le cavage. N'hésitez pas à les contacter à l'automne dès le mois de novembre. Olivier Mouly a interviewé Gilles et Sabine sur leur exploitation avec une question importante, entre autres, est-il sûr en plantant de récolter des truffes? La réponse tient en un seul mot, patience. Gilles Barbe.
On a commencé à planter en 92 avec mon père, ma mère, nos femmes respectives, avec mon frère, mes frères. Et puis voilà, depuis on continue à planter, à faire des produits, à faire tout sur la truffe.
Commercialiser la truffe.
Truffe fraîche en saison et toutes les terrines, tout ce qui est verrine, transformation, toute l'année.
On peut trouver facilement vos produits?
Oui, bien sûr, en suivant le site La Truffe Nord de Villedieu, bien sûr, et en venant directement à la boutique, à Manosque. Pour venir, c'est pas compliqué, il faut suivre le grand canal EDF, c'est La Truffe Noire de Villedieu sur Google Maps.
Pour ceux qui seraient passés devant vos truffières sur la route d'oraison, il y a une particularité tout de même. Laquelle?
Complètement, elles sont taillées en rond, en boule.
En boule, hein, c'est pas spectaculaire.
On a été des premiers à les faire, pas les premiers, mais certainement à grande échelle, c'est nous. Et chaque année, à partir du mois d'août, on taille les truffières de cette façon-là, pour pas que le milieu se referme, pour beaucoup de choses. Quoi.
Ah, il faut que ça soit aéré entre les arbres.
Si la truffière n'est pas aérée, la truffière va se refermer. En arrosant, la truffière va se refermer et dans 5-6 ans, il n'y aurait pratiquement plus de truffes. Donc, sans que les saisons soient extraordinaires, on a toujours des truffes en taillant les arbres, en faisant toujours un travail tout au long de l'année.
Pour la récolte, vous utilisez un chien, un porc, oui, la mouche?
Le cochon, c'est trop pénible à rentrer. Dans une voiture, c'est pas évident, le sifflant, il vient pas. Non, on a des labradors, on a deux ou trois chiens labradors, et mon frère aussi, donc ça va très bien comme ça. La mouche, c'est bien, mais il n'y en a pas tout le temps.
C'est vrai, c'est pas une légende.
C'est pas une légende. Il y en a des mouches aussi, bien sûr qu'il y a des mouches, mais bon, c'est trop particulier ça. C'est vraiment pour s'amuser la mouche.
Lorsque vous plantez, vous êtes sûr d'avoir des truffes ensuite ou c'est vraiment un hasard ?
On va pas dire un hasard, c'est beaucoup de travail déjà. Il faut bien comprendre que pour avoir des truffes, il faut planter bien sûr, mais travailler beaucoup, beaucoup dessus. Pendant des années, sans rien avoir. Et un jour, si on travaille bien, si tout se passe bien, on a des truffes, mais pas tous les arbres portent. Bien sûr que pas tous les arbres portent. Il y a un pourcentage minime qui porte sur la plantation totale.
Alors souvent, ce sont des chênes, la plupart du temps.
Des chênes. On a essayé de noisetiers, mais ça fait des noisettes. Pour nous.
Hein. C'est bon, en
fait. Oui, avec du chocolat, c'est bon. Mais pas pour ce qu'on fait. Hein.
Et les plants sont ensemencés au départ ?
Complètement, oui. C'est tous des arbres qui sont contrôlés par l'INRA, enfin, tout plein d'organismes, et il y a plusieurs provenances. Ce qu'il faut faire, c'est toujours planter plusieurs provenances. Jamais la même. Jamais. Parce qu'il suffit que le lot soit moins bien, mais vaut mieux faire plusieurs provenances. C'est beaucoup plus simple. Nous, on a la particularité de traiter toutes nos truffes, bien sûr. Plus qu'on a à l'atelier, toutes celles qui sont un peu boisées, qui sont un peu trouées, partent dans nos terrines, elles sont autant bonnes, mais oui, ne sont pas commercialisables dans l'état. Donc, voilà.
Sabine, l'adresse pour vous trouver.
Alors, la truffe noire de Villedieu, toutattaché.jindo.com. Ça, c'est le site internet où on peut nous découvrir l'historique de la famille et tout ce qui s'ensuit. Voilà, le labo, le magasin, nos magasins distributeurs aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec Couleurs Paysannes également, où vous pouvez retrouver tous nos produits.
Et en saison, on fait découvrir aussi, on a la particularité de faire découvrir aux gens la récolte de la truffe. De fin novembre jusqu'à fin janvier, les gens peuvent venir chez nous pour voir comment on récolte une truffe.
Les gens s'inscrivent sur le site via la DLVA ou via nous direct, et puis après ils peuvent visiter la truffière et le cavage, surtout le cavage, c'est ça qui est intéressant. Voilà, ils cavent avec nous en tout cas.
Bien rêvé avec la truffe noire de Villedieu. Le directeur de l'office de tourisme de la DLVA nous a rejoint. Bonjour Jean-Frédéric Gontier.
Bonjour François, bonjour David et bonjour aux auditeurs qui nous écoutent ce matin.
Nous allons tout à l'heure parler avec David Ayot justement. Mais avec vous d'abord, on va définir et on va expliquer ce qui se cache derrière ce terme d'agritourisme. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors l'agritourisme, on entend aussi agrotourisme, on entend tourisme rural, tourisme à la campagne. Ça se définit simplement comme une expérience touristique réalisée en fait dans le milieu agricole, une expérience qui repose sur la relation entre une organisation agricole, souvent un agriculteur, une agricultrice, les services qui accompagnent le produit agricole et le touriste lui-même, l'excursionniste qui vient fréquenter cette région. L'agritourisme aujourd'hui est une offre touristique en lien, donc je le disais, direct avec une exploitation agricole qui repose finalement sur quatre catégories. Tout d'abord l'hébergement. Alors je vais donner quelques définitions, les fermes auberges, le camping à la ferme, les gîtes ruraux, les gîtes de groupe, les chambres d'hôtes. Autre catégorie, la restauration, tableau d'hôtes, goûter à la ferme, ferme auberge, des termes qui parlent beaucoup au public. La vente de services également, telles que les activités éducatives, on retrouve chez nous sur notre territoire et partout dans les Alpes-de-Provence des fermes pédagogiques, de découverte, l'accueil de scolaires. Des activités aussi de sport et de loisirs, certains organisent des randonnées en VTT dans leur espace, équitation, chasse, pêche. Et enfin, la vente directe de produits à la ferme, cueillette, vente de produits transformés, artisanat. Voilà ce que l'on appelle l'agritourisme en France. Il faut savoir que la campagne est le deuxième espace touristique en France, avec plus de 290 millions de nuitées par an. C'est 30% du poids du tourisme en France et également pour notre agglomération. C'est une pratique, vous vous en doutez, qui séduit de plus en plus de citadins qui sont à la recherche d'authenticité, de nature, mais aussi d'échanges avec les agriculteurs et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Très certainement, c'est donc un atout pour un territoire rural comme le nôtre. Quelle est la part de l'agritourisme dans votre activité ? C'est une part importante ?
Alors c'est une part importante, juste une petite parenthèse, j'y pense à l'instant. Il faut savoir que le tourisme rural est un peu né dans le département des Alpes-de-Provence, puisque en 1951, un certain monsieur Audibert créer le premier gîte rural en France. Donc finalement, le lien entre ce département et le tourisme est très fort et date de plus de 70 ans. Alors effectivement, l'agritourisme représente une part importante pour l'activité de l'Office de tourisme, puisque nous sommes sur quand même une terre agricole, une zone agricole, et on ne peut pas se passer de cette filière et de ces acteurs qui composent la filière. Nous intervenons sur deux points. Tout d'abord, le travail sur l'offre, et vous venez d'écouter Sabine et Gilles Barbe, on les a aidés à mettre en route leur activité et à le rendre visible au public par des visites guidées, un site internet, des outils de communication. Donc un travail sur l'offre pour accompagner quelquefois même des porteurs de projets dans certains appels à projets. Et puis l'autre pan de notre activité pour l'agritourisme, c'est le travail sur la demande, sur les marchés, afin de stimuler l'arrivée de clients par des voyages de presse, par de la qualification des offres, le fait de les rendre plus visibles sur nos outils de communication. Donc à la fois un travail sur l'offre et un travail sur la demande, avec souvent des acteurs impliqués qui ont envie de s'ouvrir au tourisme. Hein. Le lien entre agriculture et tourisme peut être très fort, mais encore faut-il que l'agriculteur lui-même ait envie et le temps, et un peu aussi l'argent pour s'investir dans le tourisme.
Dans vos offices de tourisme, il y en a plusieurs sur le territoire de l'agglomération. Vos personnels, vos collègues sont conscients et sont évidemment mobilisés par rapport à l'agritourisme ?
Oui, on est complètement mobilisés. Alors tout d'abord, cette mobilisation, elle passe par une découverte durant la saison creuse. On va sur le terrain découvrir des activités agricoles, des activités portées par ces agriculteurs pour connaître l'offre, parce que le but étant de savoir ce que l'on a pour le proposer ensuite à la clientèle. Et puis ensuite, nous distribuons dans nos offices de tourisme toute une série de documentations plus ou moins affinées en fonction de la demande des touristes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des demandes qualifiées dans nos offices de tourisme concernent justement le tourisme rural, les produits locaux, la recherche d'authenticité, de découverte et de rencontre avec les agriculteurs.
Et à ce niveau, évidemment, on trouve les produits de nos agriculteurs. Alors, les touristes sont intéressés, bien sûr, par ces produits, mais est-ce qu'ils cherchent aussi le contact avec les producteurs, les agriculteurs ?
Oui, bien entendu, c'est une demande très forte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au-delà de ce développement économique pour l'agriculteur lui-même, puisque le tourisme est une activité économique, c'est vrai qu'il introduit en fait un lien très fort avec le consommateur, puisque ce touriste est un consommateur. Et effectivement, faire de l'agritourisme pour un agriculteur est peut-être une voie aussi pour finalement toucher de plus près des consommateurs, une clientèle, afin d'éviter quelquefois de mauvais intermédiaires. Et puis, pourquoi pas aussi, finalement, transformer l'essai par la vente aussi directe d'activités, de services que j'ai citées au début.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Gilles Barbe et de l'action que vous avez menée avec lui. Quels sont les conseils que vous pouvez donner, le cas échéant, aux agriculteurs qui accueillent ou qui vont accueillir ?
Le conseil que je pourrais donner, alors il y en a plusieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les études sur la prospective montrent que les gens vont de plus en plus être à la recherche de nature et d'authenticité. Donc quand on est une destination rurale, on sait qu'aujourd'hui on a tous les atouts en main pour justement réussir sur le marché du tourisme. Le conseil que je donnerais aux gens, c'est souvent pour réussir l'essai, c'est la mise en réseau. Je pense que c'est un terme qui parle beaucoup aux agriculteurs dans leur propre métier, mais dans le tourisme aussi. Et la faiblesse un petit peu de l'agritourisme, c'est justement ce manque de réseau entre les acteurs, même si certaines corporations essayent de se mettre en réseau. Et d'essayer aussi tous ensemble de vendre plus une destination qu'une activité. Je crois que la réussite de l'agritourisme passera par le fait de vendre une destination dans un sens large, mais pas forcément une activité simple. Voilà, parce que les gens qui viennent de loin viennent pour une destination souvent et un ensemble d'offres et pas forcément uniquement pour l'hébergement.
Alors vous restez avec nous, Jean-Frédéric Gontier, pendant toute cette émission. Je vous propose de prendre la direction d'une deuxième exploitation et on va aller retrouver Eric et Tine, Le Cajot, c'est à Allemagne en Provence. Ils sont maraîchers avec une exploitation en bio et la vente en local, par exemple le marché de Riez, et ils sont aussi partenaires du parc du Verdon et de la fondation L'Occitane. Ils cultivent et valorisent des variétés anciennes et locales d'arbres, pratiquent l'agroforesterie qui consiste à planter les légumes entre les arbres et qui permet d'économiser l'eau, notamment. On peut visiter l'exploitation et surtout bénéficier des conseils d'Éric Gros, un passionné prolixe, qui évoque les produits extra frais. Il répond aux questions d'Olivier Mouly.
Éric Gros, vous êtes le Éric de Éric et Tine. Alors, qui sont Éric et Tine ?
Alors, Éric et Tine, c'est d'abord Éric Gros qui a commencé à faire Le Cajot pendant une dizaine d'années. J'ai rencontré Tine, qui est venue se joindre à moi. Eric Etin tout de suite. Le cajou, on le met en tout petit. Vous tapez sur Internet, vous sur notre site Facebook où Christine entretient et met régulièrement des photos et aussi les légumes disponibles de la semaine. Parce que suite au coronavirus, les gens ont pris un peu conscience de la disponibilité des petits producteurs qu'il y avait à côté de chez eux, dont ils ignoraient pour la plupart même l'existence. Donc ayant développé ce système, plus l'envie des locaux d'acheter autrement que sur le marché, bah, ils peuvent commander sur le site ou passer carrément sur l'exploitation le mardi à partir de 11h et le vendredi à partir de 11h, parce qu'on ne vend que des produits extra frais. On ne fait aucune ramasse à l'avance, si ce n'est des courgettes qui pourraient devenir trop grosses, des tomates trop mûres. Donc ça, c'est présent aussi sur Riez, parce que nous n'habitons pas l'exploitation.
On se trouve à Allemagne-en-Provence.
À Allemagne-en-Provence, l'exploitation. On est maraîcher, on fait des arbres. On s'est passionné avec Christine pour les arbres. On a planté d'abord quelques pêchers de vignes sauvages. Et ensuite, quelques pépins que je me suis amusé à faire. On s'est pris au jeu et on a eu de la chance de rencontrer Marc Doucière du Parc Naturel du Verdon, où nous avons fait un premier partenariat de plantation d'arbres, de variétés tout à fait locales, anciennes, sur ce premier partenariat qui a très très bien fonctionné. Sur, je ne sais plus, c'était 130 arbres qu'on avait récupérés. On a eu 2 morts, donc c'est exceptionnel. Du coup, on a refait un deuxième partenariat, mais cette fois avec la Fondation L'Occitane, où nous avons planté 90 arbres, mais pareil, des variétés anciennes, locales, de la pomme de Rizoul, la prune de la Javille. Par des pommes anciennes, c'est la pomme d'Api étoilée. La grosse surprise, c'est qu'on a même 2 pommiers, c'est la pomme d'Adam. La pomme d'Adam et Ève. On en a 2, on espère qu'ils vont, au moins un des 2 va tenir pour pouvoir le parc prélever des greffons et recontinuer ce partenariat avec d'autres personnes qui voudraient jouer le jeu pour retrouver ces fruits anciens que vous ne trouverez nulle part en grande surface.
Des vergers conservatoires, c'est ça?
Tout à fait. Vergers conservatoires, de par sa diversité, aussi bien, enfin, en pommes, poires, figues, on a tous les arbres presque, jusqu'au truffier, mais toujours en double ou en triple, pour valoriser, et si jamais un devait disparaître ou 2 disparaître, ça nous permet au moins de garder la variété pour la reproduire. Il y a juste la poire William, c'est un des seuls arbres que j'ai dû acheter, pour polliniser la pomme poire Nashi que peut-être vous connaissez, qui a un goût exceptionnel. C'est vraiment entre la poire et la pomme.
Alors c'est des arbres que vous cultivez, ainsi que vos légumes que vous cultivez au milieu de vos arbres. Vous avez un système tout à fait naturel qui respecte à la fois l'environnement.
On travaille essentiellement en agroforesterie, ce qui veut dire qu'on cultive tous nos légumes entre les arbres. Nous travaillons à l'ancienne, donc on appelle ça de l'irrigation gravitaire. Il n'y a pas de pompe, l'eau est prélevée dans des canaux d'arrosage et s'écoule dans les raies. Le fait d'arroser nos légumes, les arbres profitent de cet arrosage pour subvenir surtout l'été. Un arbre adulte n'a plus besoin d'eau. L'avantage aussi de ce système, c'est que le système racinaire des plantes va chercher l'eau en bas, parce que l'eau vient du bas. Tandis que quand vous faites de l'aspersion, les racines ont tendance à s'étioler, à aller chercher l'eau en surface. Et quand il fait très chaud, elles sont très peu protégées. Tandis que quand elles enracinent bien profondément, elles résistent un peu plus aux grosses chaleurs. On a eu la chance aussi, par le Parc naturel du Verdon, de rencontrer Dominique Moll, qui est un spécialiste de la taille. Donc c'est beaucoup lui qui nous a appris à tailler, parce que moi, j'étais pas du tout dans ce métier, donc j'ai fait quelques erreurs. Tandis que maintenant, effectivement, on laisse partir les charpentières, mais on fait des arbres à plein vent. Des arbres majestueux qui peuvent monter à 12 mètres, 13 mètres.
Vous organisez également des visites et des stages?
J'organise des visites sur rendez-vous pour partager ces moments, parce que je suis un passionné, donc je vous explique comment faire partir une charpentière, comment entretenir cette charpentière, comment gérer les sous-charpentières et les sous-sous-charpentières qui vont vous donner quelques fruits, mais que vous supprimerez l'année d'après. Voilà. Et puis, comme on a la chance d'avoir ces 5 vergers conservatoires plantés à 2-3 années différentes, là, vous voyez vraiment comment on fait partir l'évolution. Et comment l'arbre, l'évolution, et l'arbre qui devient majestueux. On a mis en place une nurserie, donc on fait essentiellement nos graines nous-mêmes, en passant du plus facile, de la tomate et de la courgette, au fenouil, au choucal, tout ce qui est énormément long à ramasser, on fait tout manuellement. Ce qu'on appelle la nurserie, c'est une serre complète où Christine gère la plantation, les semis, la rotation des légumes, tout ce qu'il faut gérer parce qu'on est en bio. Donc il y a aussi une rotation de minimum 4 ans à respecter avant de retourner avec la même famille. Je voudrais insister aussi sur l'implication de Christine parce qu'en plus de la gestion de tous ces semis et des rotations, je me retire petit à petit de la production du coup. Je m'occupe plutôt de la vente, je vais m'occuper des marchés et de la transformation. Sans ne plus aller trop au jardin, si ce n'est un peu l'aider, faire ce qu'elle va me dire, quoi. Ça va être la patronne, hein. C'est comme ça, chacun. Il faut savoir déléguer, j'ai très difficile, mais elle assume vraiment bien, et c'est une femme très, très, très courageuse. Elle mérite que ça continue.
Alors, on peut trouver vos produits à la fois sur le marché de Riez et sur votre exploitation Allemagne en Provence.
Ça, c'est les deux marchés que l'on a gardés. Sur l'exploitation, comme je le disais, le mardi et le vendredi à partir de 11h, puisqu'on a fini ce qu'on appelle nous la ramasse, on commence très tôt le matin. À 11h, tout est ramassé et tout va partir le lendemain sur le marché. Mais les gens qui n'ont pas forcément envie d'aller dans la foule, n'ont pas forcément le temps de se déplacer, savent qu'ils peuvent venir à partir de 11h ces deux jours-là, comme on dit, au cul du camion. Ils viennent prendre ce qu'ils ont envie par rapport à ce qu'on a ramassé.
Tous les renseignements et la production et ce qui est ramassé sur votre page Facebook, Eric Etienne Le Cajot.
Tout à fait.
Eric Etienne, ce sont des exploitants à Almagnan, en Provence. C'était un reportage d'Olivier Mouly. Notre deuxième invité est avec nous. Il s'agit de David Ayot. Bonjour David.
Bonjour à vous et merci de nous recevoir.
Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. C'est même un bonheur parce qu'on va parler d'une belle manifestation. Mais avant de parler des terres de Jim, David, vous représentez les jeunes agriculteurs du 04. Quel est le rôle de cette structure?
Alors le rôle des jeunes agriculteurs, il est un peu méconnu car on est un peu dans l'ombre de nos parents, entre guillemets, qui est la FDSEA, mais on est quand même un syndicat apolitique et indépendant, vraiment détaché. Et donc, jeunes agriculteurs, on vient faire de l'animation de milieu rural sur les cantons, donc sur tout le département. Et après, on est là aussi pour défendre les jeunes installés, pour défendre l'installation, pour défendre la transmission, enfin pour vraiment être au chevet. Puis on a aussi ce lien-là qui est de faire du lien, de faire du réseau, de faire du tissu, de se retrouver entre jeunes parce qu'on a beaucoup de problématiques ou de choses communes. On parlait d'agritourisme justement, qu'on a la volonté, comme Jean-Philippe disait, de faire un réseau, de se retrouver et donc voilà.
Jusqu'à quel âge est-ce qu'on est un jeune agriculteur?
Alors, jeune agriculteur, pour être éligible à l'installation, c'est jusqu'à 40 ans. Ça, c'est autre chose. Il faut faire son parcours à l'installation, s'installer, se rapprocher de la chambre d'agriculture pour le faire. Et après, pour être jeune agriculteur au sens syndical, on peut être élu jusqu'à 35 ans, dans sa 35e année. Et après, vu qu'on est un syndicat, du moment qu'on partage les idées et les positions de jeunes agriculteurs, vous pouvez adhérer comme une association jusqu'à vita aeternam.
Alors, est-ce qu'il y a un renouveau, voire de l'attractivité pour les métiers agricoles actuellement?
L'agriculture, c'est un métier merveilleux et même si notre vocation première reste la même, qui est nourrir la planète, enfin vous nourrir, parce qu'on n'a pas l'ambition de nourrir la planète, mais déjà se nourrir et vous nourrir et animer et aussi entretenir le paysage, l'agriculture évolue très vite, on a le changement climatique qui vient se rajouter là-dessus, donc là, le métier d'agriculteur n'est pas un métier figé. On a les techniques qui évoluent, les technologies qui évoluent. Aujourd'hui, on voit les drones arriver, les robots arriver, le bio qui est bien installé mais qui est encore là. On parle d'économie d'eau, on parle... Donc, faire mieux, et c'est ça qui est fabuleux dans ce métier, c'est que c'est pas un métier qui est figé, c'est un métier qui évolue en permanence et où on doit s'adapter en permanence. Et même les jeunes qui vont arriver demain devront encore évoluer, innover, rénover, et voilà.
Vous êtes un moteur dans ce changement, justement?
J'espère, même si je n'en ai pas la prétention, mais on essaye.
Bien, et si vous êtes avec nous aujourd'hui, David, c'est pour parler d'une importante manifestation dont vous êtes responsable pour l'organisation, les Terres de Jim. Vous pouvez nous présenter l'opération?
Alors, les Terres de Jim, c'est un événement qui existe sur ce nom-là depuis 2014, qui est la finale nationale de la bourre. Ça s'appelait sous un autre nom avant, et depuis 2014, la France a accueilli la finale mondiale de la bourre, et à ce moment-là, jeune agriculteur a décidé de redorer, entre guillemets, cet événement, donc c'est devenu les Terres de Jim, et aujourd'hui ça devient l'événement agricole plein air le plus grand d'Europe.
Pourquoi Jim?
Pourquoi Jim ? Donc, jeune agriculteur avait fait appel, pour l'anecdote, à une société de communication et avec le concours du grand public. Et c'est Jim qui est sorti, Jim avec son nom de famille qui est Bataille, en rapport aux batailles syndicales de jeunes agriculteurs.
Donc c'est un symbole quelque part.
C'est vraiment un symbole.
Les 10, du 10 au 12, mais évidemment pour vous ça a commencé bien en amont, vous allez nous expliquer ça. C'est un grand rendez-vous que vous avez fixé avec le public et notamment des visiteurs.
Voilà, donc c'est l'égal du salon de l'agriculture si on veut, mais qui est délocalisé à la campagne. Donc d'année en année, c'est un événement qui est itinérant. Nous l'avions demandé en 2018 pour être attributeur en 2020. Le Covid ayant eu lieu, on a malheureusement dû le reporter. Et là, on a vraiment hâte de vous recevoir parce que ça fait plus de 2 ans qu'on est sur cet événement-là. Les idées ont fusé pour vous trouver des animations, pour trouver des surprises, pour trouver un programme. Donc, on a vraiment hâte d'y être.
Alors, justement, quelles animations ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, toucher, goûter et boire peut-être même aussi lors des terres de Jim ?
Alors, tout ce qu'on boira ou tout ce qu'on consommera, ce sera avec modération. Mais on accueille pour la première fois la finale nationale des tondeurs de moutons. Donc, on va avoir un gros pôle animal qui sera axé sur les moutons et sur la tonte, et donc avec des catégories, bien entendu, c'est assez complexe et complet. On a bien sûr la finale nationale de la bourre, donc sur les 3 jours, on a les qualifications pour la finale européenne et mondiale, mais on a aussi les essais pour la finale nationale, et le dimanche se conclut par la finale de la bourre, qui est quand même l'événement. Et après, on a créé un pôle végétal avec toutes les cultures qu'on peut avoir sur la Haute-Provence, donc du blé, des lentilles, du maïs. Et voilà, et on a aussi un pôle machinisme avec les concessionnaires du département pour avoir un panel assez large. Et en fait, ça va être la vitrine du département. On veut vraiment vous faire la vitrine de l'agriculture provençale et de l'agriculture basalpine qui est très riche.
Vous allez accueillir à cette occasion, je le souhaite et on fait tout pour, évidemment, plusieurs dizaines de milliers de personnes et de visiteurs. Comment est-ce que vous vous êtes préparé à cet afflux assez exceptionnel dans ce département ?
En se creusant la tête, en se tournant vers la DLVA, notamment pour avoir un plan de com, en se tournant vers des partenaires comme le département qui nous ont aidés à atteindre le maximum de visiteurs. Donc les dizaines de milliers, on va les multiplier pour espérer atteindre 100 000 visiteurs, qui est fabuleux. Et donc, nous avons mis notre matière grise à l'œuvre pour essayer de voir comment atteindre un maximum de visiteurs et de vous trouver un programme le plus complet possible pour vous donner envie de venir et vous attendre.
Les matières grises, bien sûr, mais aussi les bras, je suppose. Combien vous êtes dans l'organisation, David ?
Alors, dans le comité d'organisation, on est une dizaine de jeunes agriculteurs. Nous avons une équipe administrative de 3 personnes en permanence. Et après, pour les bénévoles, on comptera à la fin, mais on est à peu près 500.
L'entrée pour les terres de Jim est gratuite ?
Elle est gratuite le vendredi, avec une prédestination pour les scolaires. On va attendre environ 800 scolaires, école maternelle, secondaire, collège, lycée, Carmejane et les Émeillères viennent aussi. Et le samedi et le dimanche, on est à 5 € l'entrée gratuite pour les moins de 12 ans.
Donc il va y avoir, je suppose, des vocations qui risquent de naître pendant les terres de Jim, en tout cas je le souhaite. C'est une manifestation, vous l'avez dit, avec un large partenariat. Vous-même, vous décollez pas depuis déjà plusieurs jours, je suppose.
On a pris place il y a 3 semaines sur le site. Là, ça fait plus de 10 jours qu'on est sur le site. Pas nuit et jour, mais tous les jours. et voilà, pour que la fête soit le plus beau possible, parce qu'il a fallu sectoriser, créer, délimiter la place. Donc, voilà.
Et vous êtes prêts ?
On espère que tout sera prêt. Là, c'est la dernière ligne droite, les derniers jours. Donc, ça s'active. On se rajoute du travail, mais on sera prêt.
Dernière question, et pas la moindre. Est-ce qu'il y aura des produits en vente pendant les terres de Jim ?
Bien entendu. Donc, on a quelque chose qui s'appelle les halles de Jim. On entend beaucoup le mot Jim, mais... Et donc là, on a un marché de producteurs. On a Bienvenue à la ferme qui a un joli village. On a les régions jeunes agriculteurs qui viennent faire leur marché. Donc on a la Bourgogne-Franche-Comté notamment. On a l'Outre-mer qui vient nous rendre visite. Donc c'est quand même fabuleux pour le réseau jeunes agriculteurs et pour tout le monde, parce que on tient que ce soit une belle fête.
Peut-être qu'on trouvera de la vanille et peut-être aussi du bourgueil. On verra
ce
bien.
Ce sera la surprise.
Vous venez de parler de Bienvenue à la ferme, David. C'est une marque, Bienvenue à la ferme. Johanna Guillermin est présidente de cette association. C'est une marque nationale, d'ailleurs, portée par les chambres d'agriculture. Beaucoup d'adhérents sont en agriculture biologique, mais ça n'est pas obligé. Les exploitants soignent l'accueil à la ferme. On peut dire que le confinement et la pandémie ont rapproché le public des exploitants locaux. Johanna exploite la ferme de Rioux, c'est à Valensole, producteur de viande et de blé dur. Sa ferme et les marchés, ainsi que les boutiques de couleur paysanne, sont ses points de vente. Elle explique sa démarche au micro d'Olivier Mouly et précise qu'un village, justement vous en parliez, bien Bienvenue à la ferme sera présent aux terres de Jim.
Johanna Guillermin, vous êtes présidente de l'association Bienvenue à la ferme Alpes-Provence. Quels sont les buts de cette association ?
L'association a pour but de promouvoir l'agritourisme et les circuits courts chez les agriculteurs.
Les circuits courts, c'est-à-dire changer le rapport entre les consommateurs et producteurs ?
Oui, c'est que les clients viennent directement se fournir chez les producteurs.
Donc c'est une association qui rassemble des fermes des Alpes et de Provence.
Oui, donc nous fonctionnons en association dans les Alpes de Haute-Provence. Dans les autres départements de la région, c'est plutôt la Chambre d'agriculture qui va gérer la marque Bienvenue à la ferme.
Et cette marque concernant plus particulièrement les Alpes de Haute-Provence, ça représente combien de fermes ?
On est à peu près à une centaine de fermes et tout confondu. Donc que ce soit vente directe, accueil à la ferme, des fermes pédagogiques, des fermes auberges. Et l'hébergement aussi, à la ferme.
Vous avez un label de qualité ?
Oui, c'est un label de qualité donc qui est quand même connu, je dirais pas aussi bien que l'agriculture biologique, mais ça fait partie des marques françaises qui sont bien identifiées. Et c'est une marque nationale portée par les chambres d'agriculture.
Pour ce qui concerne l'agriculture et l'élevage, est-ce qu'il était obligatoire d'être en bio ?
Alors non, le label d'agriculture biologique n'est pas obligatoire pour être adhérent Bienvenue à la ferme. Par contre, il représente beaucoup de nos adhérents puisqu'il y a beaucoup d'agriculteurs en agriculture biologique qui font du circuit court et donc qui ont les deux labels.
Donc dans l'ensemble, on peut imaginer des gens responsables quant à l'agriculture raisonnée qui préservent l'environnement.
Oui, tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en agriculture biologique qu'on ne fait pas des bons produits ou qu'on ne propose pas un bon accueil à la ferme. Donc, c'est toujours une marque de qualité.
Après un an et demi de pandémie, quel est le bilan concernant les ventes ou l'accueil, même pour les gîtes ?
Ça a été plutôt un effet assez exponentiel, en fait, au niveau des ventes directement dans nos fermes ou sur les marchés. Beaucoup revenaient aux choses de base qui privilégiaient le local aussi. Ça a été assez bénéfique pour nous, en tout cas, tout ce confinement. Et puis voilà, les gens, ils ont eu plus de temps aussi pour découvrir ce qu'ils avaient à côté de chez eux. Donc, ils sont venus à notre rencontre et maintenant, on a gardé beaucoup de nouveaux clients grâce à ça.
Si on souhaite plus de renseignements concernant cette association Bienvenue à la ferme, y a-t-il des liens, des contacts, un site ?
Oui, vous pouvez contacter directement Marinette Gonzalez à la Chambre d'agriculture 04. On a un site internet, donc une page Facebook aussi, c'est Bienvenue à la ferme Alpes-Provence.
Vous-même, vous êtes responsable d'une ferme, la ferme du Rioux à Valensole ?
Oui, avec mon conjoint, donc nous sommes co-exploitants agricoles sur le GAEC du Rioux.
Que trouve-t-on dans votre ferme ?
Nous sommes très diversifiés. Nous avons une exploitation qui part du maraîchage, un petit atelier maraîchage, en passant par des bovins, des porcins, des plantes à parfum, dont notamment la lavande et le lavandin, mais aussi tout ce qui est céréales et fourrages, donc pour l'alimentation de nos bêtes.
Produisez du lait, enfin des fromages avec votre bétail ?
Non, pas du tout. Ce sont des races à viande. La grosse majorité de nos bêtes sont des aubraques, donc sont des vaches allaitantes, donc on ne les trait pas, elles ont le lait quand elles ont leur veau et on s'en sert uniquement pour la viande.
Donc vous vendez la viande à votre ferme ?
Oui.
Sous toutes les formes ou ce sont des colis ?
Maintenant, avec notre atelier, sous toutes les formes, que ce soit en colis, au détail, en transformé, que ce soit des steaks hachés, des saucisses, avec les porcs nous faisons de la charcuterie aussi. On a démarré cette année, un peu grâce au confinement qui nous a confortés dans notre idée de produire et de tout transformer à la ferme. Donc nous avons commencé notre atelier de transformation au printemps et nous transformons donc notre blé dur en semoule et nous faisons les pâtes fraîches et les raviolis avec les farces de nos légumes et de nos viandes.
Alors trouve-t-on vos produits à la ferme et à la fois sur les marchés également ?
Oui, à la ferme directement, une fois par semaine, j'ai l'habitude de faire les ventes, et aussi au marché du village, ou bien plus occasionnellement l'été au marché producteur, bienvenue à la ferme à Gréoux.
Si l'on veut passer dans votre ferme, quelle est votre adresse à Valensole ?
C'est tout simple, c'est Chemin du Rioux, à Valensole. Vous tapez sur map, c'est vrai que c'est bien indiqué, vous arrivez directement au GAEC. En parlant de contact, où est-ce qu'on pouvait nous retrouver ? Nous participons au salon Les Terres de Jim à Corbière, là, les 10, 11, 12 septembre. Donc, c'est la plus grande foire agricole à ciel ouvert de France. Donc, nous serons présents avec un village bienvenue à la ferme sur place.
Bienvenue aux Terres de Jim pour Bienvenue à la ferme, justement, donc du 10 au 12 septembre, Johanna vient de le dire. C'est aussi, on a oublié de le dire tout à l'heure, David, il y a beaucoup d'animations, il y a des démonstrations, vous en avez parlé, mais il y a une animation festive particulière, il y a une set de DJ et un feu d'artifice, ce sera le samedi soir. De quoi faire la fête aussi, hein.
Ben, disons que le monde agricole a besoin de se retrouver, a besoin de faire la fête, surtout avec la pandémie qu'on connaît, donc on a hâte d'y être. En effet, il y a ce DJ set, on a voulu plus un DJ qu'un orchestre pour rester jeune et pour pouvoir se défouler.
Et ce sera une belle opération. Je vous rappelle que vous attendez plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, voire 100 000 visiteurs. On verra si la barre est atteinte dimanche soir. Pour toute information et réservation, vous allez sur lesterresdejim.com. Évidemment, passe sanitaire en vigueur. Vous faites aussi très attention à cette situation, David.
On fait très attention, ça a été le mot d'ordre, c'est qu'on veut réussir cette fête. Donc le passe sanitaire est de rigueur. Nous avons aussi commandé des tests avec la sécurité civile. Donc nous vous accueillons si vous n'êtes pas vacciné, pour que l'ensemble des visiteurs puissent profiter de cette fête. Donc pour les informations, c'est lesterresdejim.com et nous sommes aussi très actifs sur les réseaux, Instagram, Facebook, donc je vous invite aussi à nous rejoindre.
Je sais aussi que vous avez convoqué le soleil.
On a convoqué le soleil, on a fait la danse. En Provence, nous avons 300 jours de soleil par an, donc espérons que ces 60 jours de pluie ne tombent pas ce week-end.
Ça devrait jouer donc du 10 au 12 septembre. David, David Ayo, un mot de conclusion, à part les terres de Jim, qu'est-ce que vous souhaitez pour les jeunes agriculteurs, par exemple ?
De la réussite, de réussir dans les projets, d'être là.
Et vous avez la dynamique déjà qui est là, qui est présente, et on va vous aider nous aussi de notre côté, car on aime notre terroir et notre territoire, et bien sûr nos agriculteurs. Un mot de conclusion, Jean-Frédéric Gontier ?
Oui, alors j'espère que nous avons fait plaisir aux auditeurs à travers cette émission qui a parlé d'agritourisme. Je voudrais juste dire combien notre campagne en particulier a beaucoup de choses à offrir. Et quelquefois beaucoup de choses de qualité, et il faut que l'on en soit convaincu. Dire aussi combien l'agriculteur aujourd'hui, dont le tourisme est un acteur essentiel, il entretient le paysage et il participe aussi à ce lien avec le visiteur, je l'ai expliqué. Et enfin, moi je souhaite plein de succès aux Terres de Jim, plein de succès pour les organisateurs, parce que c'est un travail que je connais, puisque nous sommes aussi organisateurs d'événements, et je mesure toute l'ampleur de cette organisation. Dire aussi aux auditeurs que ils ont la chance, là, à Corbière-en-Provence, de retrouver l'une des plus grandes fêtes agricoles de France, et que c'est une chance, et qu'il faut absolument se déplacer, puisque ça ne reviendra pas avant un moment. Et enfin, je voulais juste dire aux auditeurs aussi que nous avons un stand sur cet événement, donc les gens pourront retrouver l'Office de tourisme avec l'Agence de développement des Alpes de Provence. On a un stand et on va essayer de valoriser aussi, comme les agriculteurs eux-mêmes, l'agritourisme dans notre département et sur notre territoire. Donc les gens sont les bienvenus, il y a beaucoup de choses à gagner, beaucoup de quiz, beaucoup d'échanges avec beaucoup de partenaires. Bref, nous vous attendons nombreux aux Terres de Jim. Merci François.
Alors merci Jean-Frédéric. Juste vous dire que nous avons mis en place un partenariat avec vous-même pour faire gagner deux entrées pour les Terres de Jim. Pour cela, il faut simplement nous envoyer, rien répondre, c'est pas la peine. Vous nous envoyez un mail à contact@frequencemistral.com. Et puis moi, à vos encouragements, j'ajouterai une petite phrase que j'ajoute régulièrement à l'attention de nos auditeurs, tout simplement pour aller voir nos agriculteurs et pour aller aux Terres de Jim. Tout simplement, soyez curieux, c'est tout. Merci à vous Jean-Frédéric Gontier, merci David Ayo, et puis bonne continuation. Oui, vous aviez quelque chose à rajouter.
Oui, pour rebondir, donc même si on disait en préambule que les consommateurs et vous auditeurs, vous avez envie d'aller au contact des agriculteurs, je peux vous rassurer que les agriculteurs a envie de venir à votre contact. Donc n'hésitez pas.
Vous l'avez prouvé dans cette émission. Merci David, et puis merci aussi à Olivier Mouly pour ses reportages et toute son activité à mes côtés depuis pas mal de temps. Merci, bonne journée à tous et rendez-vous à Corbière.
Au revoir François. Thank you.